Petit extrait du livre, Expérience initiatique, tome 1. La voie sensorielle. Dr Francis Lefebure. Édition Phosphénisme. Depuis toujours, les méthodes initiatiques ont été enseignées de manière empirique, sans que le candidat à l'initiation sache réellement ce qui se passe en lui. De plus, les phénomènes ont habituellement été décrits de façon poétique, ce qui ne permet pas de saisir les critères déterminants d'une initiation réussie. Appliquant à l'étude des états supranormaux, la démarche du médecin et du scientifique, le docteur Lefebure, en tant que physiologue, analyse les principes de l'initiation, notamment le mécanisme du renversement des activités sensorielles, dégageant ainsi les lois de la perception spirituelle. Débouchant directement sur la pratique d'expérience à la portée de tous, le lecteur découvrira également le parallélisme existant entre des phénomènes neurologiques actuellement inexpliqués et les résultats obtenus avec les exercices initiatiques. La convergence oculaire est considérée par tous les yogis comme étant l'exercice le plus difficile à réaliser. C'est pourtant celui qui ouvre définitivement la porte sur la perception spirituelle et les phénomènes de voyance. La convergence oculaire est l'un des plus antiques exercices mystiques qui donne accès à l'ouverture du troisième œil et donne aussi la perception des mondes invisibles. Une synthèse des exercices donnant rapidement accès à des phénomènes très poussés permet de vérifier chacun des points avancés par le docteur Lefebure. Ce dernier insiste sur l'attitude mentale correcte nécessaire pour obtenir les phénomènes. En définitive, la voie sensorielle est l'ensemble des principes essentiels du développement spirituel, à l'usage des débutants, d'une part, qui souvent ne savent pas ce qu'ils recherchent et encore moins ce qu'ils peuvent trouver. Et d'autre part, à l'usage des personnes, ayant déjà eu des expériences psychiques, et qui souhaitent les approfondir. C'est pourquoi, pour couronner l'ensemble, le docteur Lefebure décrit un puissant exercice dérivé de l'initiation lamaïque. Introduction. L'essor du yoga. J'ai décidé de décrire et de rendre public certaines expériences psychiques que j'ai faites principalement depuis ma rencontre avec mon maître Artem Galip. J'ai fait certaines expériences avant cette période. Elles ne rentrent pas, sauf exception, dans le cadre de cette étude. De même, en sont exclus certains états de conscience qui m'ont paru trop difficilement descriptibles. Extension du yoga en Occident. Mon récit n'est absolument rien romancé. Je me suis efforcé de présenter les choses aussi objectivement et simplement que possible, comme j'ai été habitué dans ma jeunesse à rédiger des observations de malades complexes. En cela, je pense être dans la ligne de la marche du temps. Observer, décrire, étudier les états supranormaux d'illumination et d'éveil dans le sommeil, les souvenirs de vie passée, les béatitudes nées de la concentration, mais chercher à raisonner à leur sujet avec la logique et la précision qu'on réserve habituellement aux sciences naturelles. Voilà un des chemins principaux par lequel notre époque réalisera la synthèse entre l'Orient et l'Occident. Pourquoi ai-je décidé la divulgation d'expériences si intimes et si étranges que beaucoup sont choqués de sa description? À un extrême, ceux qui en sont encore à la mode de 1900, en matière de conception philosophique, penseront que je délire. À l'autre extrême, certains occultistes me reprocheront amèrement d'avoir divulgué des choses qui, normalement, doivent rester cachées. Pour faire comprendre les motifs qui m'ont amené à décrire par le menu certaines de mes expériences supranormales, je vais user d'une comparaison, imparfaite d'ailleurs, qui, cependant, met bien en relief l'importance de l'enjeu. Coïncidences qui ont permis la découverte de la radioactivité. L'ère atomique, dont les bouleversements actuels ne forment que les prémices, s'est ouverte par un phénomène imperceptible qui a résulté d'une double coïncidence extraordinaire. D'une part, il a fallu que, absolument par hasard, fût oublié, dans un tiroir, un débris de minerai d'uranium posé sur une plaque photographique. Réfléchissons combien était minime, à l'époque, les chances d'une telle rencontre dans un tiroir. La photographie n'existait pas depuis tellement longtemps. Et le minerai d'uranium, n'ayant pas alors spécialement attiré l'attention, ne se trouvait pas dans tant d'armoires et de tiroirs. Ainsi donc, cette première juxtaposition, qui dura quelques mois, aurait pu ne se produire que des dizaines, voire des centaines d'années plus tard. Cette première extraordinaire coïncidence a changé la marche du monde. Mais, à elle seule, elle eût été sans conséquence. Il a fallu une deuxième coïncidence pour que naisse l'ère atomique. Par extraordinaire, un véritable savant se trouvait là. Si une laborantine était passée avant lui, elle aurait peut-être jeté le papier photographique, parce qu'il était gâché, et la marche du monde eût été tout autre. Becquerel ayant découvert un voile, sur ce papier sensible, voulut en rechercher la cause. Il se rendit auprès d'un collègue, qui ne saisit pas l'importance de cette observation. Mais le vrai savant n'eut de cesse qu'il n'eût prouvé la radioactivité de certains minerais. Dès ce fait acquis, il était désormais certain que l'on saurait un jour extraire l'élément radioactif du minerai, parce que, le monde savant étant alerté dans son ensemble, plusieurs s'attelleraient à ce travail. Si les Curie ne l'avaient fait, d'autres l'auraient réalisé à leur place, car il était logique que l'intelligence collective attribua la plus haute importance et consacra de multiples recherches à ces rayonnements spontanés de la matière. Mais la marche du monde eût été tout autre si l'intelligence individuelle d'un homme n'avait su exploiter un hasard, s'il s'était contenté de jeter au panier une plaque voilée. Nul ne peut dire combien de siècles il aurait alors fallu pour parvenir à provoquer des explosions atomiques. Or cet exemple pourrait être appliqué à beaucoup de découvertes fondamentales, mais aussi à toutes celles qui n'ont pas eu lieu, parce que la coïncidence ne s'est pas trouvée. Cela prouve, comme le disait si justement Bergson, que l'évolution de la science est, par conséquent, de l'histoire aurait pu être tout autre. Coïncidence nécessaire pour la naissance d'un occultisme scientifique. Or, j'estime, et il faudra le recul du temps, pour pouvoir porter un jugement sur cette affirmation, avoir bénéficié d'un hasard au moins aussi important que celui dont le tiroir de Becquerel a été le théâtre. Mais je n'ai pas la prétention d'être un Becquerel, c'est pourquoi je sollicite des concours pour que l'on m'aide à l'exploiter. J'estime que ce hasard m'a fait rencontrer, à 18 ans, une des meilleures méthodes initiatiques. J'entends un ensemble de procédés susceptibles de provoquer la séparation consciente du corps et de l'âme, la perception des mondes, où l'homme se trouve après la mort, celle de la lumière, du son et du souffle qui inondent ces mondes. D'obtenir des preuves objectives de ces phénomènes tels que manifestation du double à distance, lecture de pensée ou vision prophétique. Enfin, par une longue pratique, cette méthode permet de retrouver le fil de notre être éternel et d'acquérir des certitudes sur nos activités durant les existences précédentes. Fin des extraits. Retrouvez l'intégralité du livre audio sur le site phosphénisme.com.